les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers youtubeurs, chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute première émission diffusée en direct depuis notre studio sur les bords de la Seine. Je remercie tous ceux qui sont avec nous ce soir. Naturellement, cette émission sera aussi mise en ligne et disponible sur notre site et l'ensemble des plateformes. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme préférée et pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce juste en dessous de l'écran. Alors Hubert Védrine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter, ancien député, ancien ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002? Eh bien depuis, vous avez eu de multiples engagements sur le plan international, auteur de nombreux ouvrages. Vous venez juste de publier un livre sur Camus, Camus, notre rempart, aux éditions Plon, et vous venez de diriger chez Perrin, grand diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours, donc chez Perrin, 20 historiens, 20 spécialistes qui dressent des portraits des grands diplomates de Mazarin à nos jours. Alors je plonge, Hubert Védrine, dans ce sujet, ce vaste sujet qu'est la diplomatie européenne mais aussi mondiale. Vous commencez votre ouvrage par la fameuse citation de Kissinger sur Richelieu, père de l'État moderne, vulgarisateur de la raison d'État, précurseur d'un nouvel âge. Comment définir, Hubert Védrine, ce nouvel âge qui prend naissance au XVIIe siècle?
Ben selon Kissinger, précisément, dans Diplomatie, il dit que la supranationalité qui existait avant, celle du pape ou de l'empereur, se termine parce que les États-nations s'affirment et que Richelieu est le premier à le comprendre. Il anticipe. En plus, on est à un moment de puissance française centrale et montante. Voilà ce que salue Kissinger dans Richelieu.
En quoi l'ordre westphalien, 1648, traité de Westphalie, change littéralement les relations européennes? Est-ce que, au fond aussi, ces traités de Westphalie, mais aussi de Münster, on oublie généralement le traité de Münster, sont le sommet de la puissance française au XVIIe siècle?
Alors d'abord, donc, Richelieu a anticipé sur ce mouvement, ce sont des États-nations, ou des États qui travaillent entre eux, ou se combattent, ou s'équilibrent. Donc c'est ça que salue Kissinger, la préfiguration, l'intelligence, la vision. Et puis à l'époque, la France est centrale, elle est très puissante. Mais dans les traités de Westphalie, etc., ce que salue Kissinger, c'est que ça retardait l'unification allemande jusqu'en 1870. Et c'est ça que Kissinger trouve, disons, spectaculaire. Donc l'Allemagne est restée, il y a des dizaines et des dizaines de principautés, de duchés, et donc ça a maintenu une sorte de suprématie française un certain temps. Donc la France a fait un bon ou un mauvais usage, mais c'est un autre sujet, ça.
Donc nous sommes au sommet de la puissance française, finalement cela renforce la puissance française. Vous me savez proche de Bainville, Bainville disait que ça a permis à la France de ne pas être envahie pendant quasiment un siècle et demi.
Ça traduit cette puissance. Alors il y a une période qui va de Louis XIII, Richelieu, et puis vous avez Mazarin, puis vous avez Louis XIV, Colbert, etc. Enfin il y a un moment particulier, c'est le sommet, en effet, qui va durer jusqu'à Louis XV, peut-être même au début de Louis XVI. Et quand la France est centrale, n'oubliez pas qu'il y a un élément démographique. La France est beaucoup plus peuplée que tout le monde à l'époque. Donc ça joue beaucoup, y compris dans la conception, à mon avis, sans limite, de l'usage des soldats dans les armées de terre. Donc oui, c'est ça, ça exprime ça. Louis XIV, Louis XV, etc. Mais après, il y a le processus qui conduit à la Révolution, et une suite qui est bien différente, qui aboutira à l'échec de Napoléon, en ce que, à partir de 1815, c'est la suprématie anglaise pour un siècle. Même si on a réussi à se remettre grâce à Talleyrand dans l'équilibre.
Alors, on va y revenir naturellement, mais je souhaiterais rester précisément sur la période moderne. D'ailleurs, vous parlez de Richelieu, mais vous commencez, les grands diplomates, avec Mazarin. Pourquoi avoir mis de côté Richelieu?
Il fallait, on l'a pas mis de côté, mais on a constaté que c'était archi connu. très très connu. D'autre part, on voulait pas faire un livre qui soit deux fois plus gros, donc il manque quelques personnages. Donc on a décidé de commencer à Mazarin parce que c'est relativement moins connu que Richelieu. Mmh. Voilà, c'est uniquement pour ça. Alors, mais je fais bien de Richelieu le fondateur de la période.
Dans la lignée Kissinger. Alors, vous distinguez deux périodes d'équilibre en Europe. La première, qui va précisément du traité de Westphalie 1648 à 1756, et la seconde, qui va du congrès de Vienne à 1914. Quelles sont les caractéristiques de ces deux périodes? En quoi se distinguent-elles dans l'histoire des relations internationales?
Alors, dans la première, on pourrait d'ailleurs ergoter sur 1756, on pourrait dire que ça continue jusqu'à la Révolution française qui brise le mouvement, mais c'est une prédominance française. Donc la question, c'est comment la puissance française, disons, s'accommode, traite, s'allie ou ne s'allie pas avec les autres. La deuxième période, c'est différent, c'est le résultat du congrès de Vienne, où Talleyrand, envoyé par Louis XVIII, Talleyrand, là, il fait vraiment preuve de génie dans cette séquence. Alors que le congrès est organisé pour mettre la France sous tutelle, qui passe son temps à faire exploser l'Europe grâce à la Révolution, puis Bonaparte, etc. Il faut la remettre un petit peu sous contrôle. Et il a réussi à transformer ça. Et au lieu que ce soit un protectorat des quatre autres sur la France, elle devient garante de l'équilibre européen du 19e. Donc c'est complètement différent. Après, il faut voir comment fonctionne l'équilibre, mais qui va continuer presque tout le 19e, jusqu'à ce que Guillaume II abandonne la politique dure, mais quand même réaliste de Bismarck, pour se lancer dans la volonté de dépasser la suprématie navale britannique, qui est le début de l'engrenage qui va conduire à 14-18.
Quels sont les éléments qui brisent cette idée d'équilibre de ces deux périodes? C'est la volonté de puissance, l'hubris?
Non, alors, dans les puissances dominantes, il y a toujours l'idée d'aller jusqu'au bout de leur puissance ou de chercher un équilibre. C'est pour ça que j'aime beaucoup Vergennes. Il y a des personnages très connus, on va en parler après, d'autres moins connus. Vergennes, grand ministre, j'ai trouvé extraordinaire qu'un grand ministre français d'une époque où la France est dominante, c'est évident, ose dire que la France n'a plus besoin de conquêtes territoriales. Donc c'est vraiment ça, vous voyez, c'est une maîtrise, c'est pas le bris, c'est la maîtrise de la puissance. La Troisième République dira l'inverse quand elle va lancer la colonisation, c'est la fin du 19e. Donc ça dépend de l'analyse que font les dirigeants. Il y a deux, trois personnes qui dirigent. Il y a le roi, un ou deux ministres, un conseiller peut-être. Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce que les inconvénients sont plus grands que les avantages? Ou est-ce qu'on s'arrête? Donc maîtrise de soi. Donc traduction, équilibre des forces. On est avant la dissuasion nucléaire qui oblige à l'équilibre. Et là, on peut en effet lire et voir ceux qui ont bien géré les déséquilibres, enfin les équilibres, et ceux qui les ont déséquilibrés.
Mais précisément, l'équilibre ou la recherche d'un équilibre n'empêche pas les guerres, n'empêche pas le conflit.
Ben, au 19e, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a les guerres de Crimée, mais c'est pour une raison un peu russo-ottomane, en fait. Il y en a quand même très peu. Il y a d'ailleurs à l'époque, non pas le Conseil européen que nous avons maintenant dans l'Union européenne, mais le Concert européen. C'est le concert des puissances. Évidemment, c'est un concert pour maintenir la stabilité. C'est anti-révolutionnaire, quand même, le système. Mais il fonctionne assez bien pendant le 19e. C'est original parce que dans l'histoire, c'est quand les vainqueurs imposent leurs lois. C'est la Pax Romana, par exemple. Vous voyez. Donc c'est original comme période.
Est-ce que justement le président Wilson, puisque votre deuxième période se termine en 1914, est-ce que le président Wilson, président des États-Unis, au lendemain de la Grande Guerre de 14, même pas au lendemain d'ailleurs, pendant la Grande Guerre de 14, a voulu mettre un terme à cet âge, à cette idée de concert européen qui reposait précisément sur l'équilibre des puissances? Est-ce qu'on peut dire qu'avec lui triomphe un principe idéologique?
Pour que c'est triomphé, il faudrait que ça ait marché. Ça n'a pas marché du tout, en fait. D'abord, même le Sénat américain ne l'a pas suivi dans la Société des Nations. Et après, vous avez les années 30, c'est l'inverse. C'est l'échec total de l'idéalisme wilsonien. Mais il voulait détruire ce qu'on appelle, d'une façon simplifiée, la réelle politique. Et moi, je défends l'idée que l'irréal politique, elle apostrophe, est beaucoup plus dangereuse, plus mensongère. Mais Wilson, c'est l'irréal politique. D'ailleurs, il y a un épisode extraordinaire qui est, ils sont à Versailles en train de négocier, et il y a Clémenceau, Lloyd George et Wilson. Et ils mangent, Wilson casse les pieds des autres avec la sécurité collective, la prévention des conflits, disons une sorte d'optimisme universel. Et Clémenceau lui dit, vous voyez le poulet? Oui, qu'est-ce qu'il a le poulet? Il est très bon. ils sont en train de manger un énorme poulet de Bresse. Eh bien, ce poulet croyait énormément à la sécurité collective, pour sa propre sécurité. Donc, vous avez le choc Clémenceau-Wilson, essentiellement. Mais son schéma n'a pas marché, en fait. Mmh. Il est tout à fait idéologique. Mmh. Il a une vision du monde qui n'a rien à voir avec l'histoire. Et à mon avis, il se trompe de bonne foi. C'est un pasteur. Il prêche à Versailles.
C'est un pasteur, mais est-ce que cet aspect précisément trouve ses racines dans le conflit qu'il y a précisément au XIXe siècle entre les réels politiciens et ceux qui souhaitent défendre une vision idéologique?
C'est plus religieux.
C'est plus religieux.
C'est même pas un rejet du réalisme du XIXe. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui a conduit à la guerre de 14. Sinon, il serait concentré sur le dérapage de Guillaume II. Non, c'est plus philosophique.
C'est plus philosophique.
C'est pour ça, d'ailleurs, que ça n'a pas bien marché. Encore, cela dit, pendant tout le XXe siècle, il y a un débat entre Wilsoniens et anti-Wilsoniens aux États-Unis. Mais moi, il me semble que ça n'a pas marché. Sinon, il n'y aurait pas eu les conséquences de l'entre-deux-guerres.
Alors, Hubert Védrine, on sort un peu de l'Europe, et dans le cadre nouveau de la globalisation du monde, de nouveaux équilibres ont vu le jour. L'Europe a été non pas reléguée à la dernière place, mais elle a été beaucoup moins importante dans les relations internationales. Mais la recherche de l'équilibre européen s'est substituée à une recherche de l'équilibre mondial.
D'abord, l'Europe n'est plus seule à gouverner les choses. Et même les Occidentaux, qui n'ont plus le monopole de la puissance. Depuis maintenant 20, 30 ans, 40 ans, les émergents émergent. Donc il faut se mettre ça dans la tête. Et quand l'URSS a disparu, les Américains ont dit « on est les patrons, numéro un, on peut faire ce qu'on veut, sanctionner, bombarder, bon, on fait ce qu'on veut ». Et les Européens ont dit « c'est merveilleux, on entre dans l'époque de la communauté internationale ». Qui n'existe pas, en fait. C'est un objectif. Bon, faut voir à quel moment ont lieu les déséquilibres. Alors, après la fin de l'URSS, il y a ce passage-là, plus le débat entre est-ce que c'est la fin de l'histoire par triomphe de nos fameuses valeurs, ou est-ce que c'est le clash des civilisations? Est-ce que c'est l'hyperpuissance, comme je l'avais dit moi, dans la décennie 90, ou un monde multipolaire? Mais avec qui? Est-ce qu'il est équilibré ou pas? En réalité, il n'y a pas de mots qui fassent consensus. Autant la guerre froide, c'était simple à décrire, autant depuis, non. Il y a plusieurs hypothèses sur l'état du monde, mais il n'y a pas d'ordre mondial. Il y a un désordre évolutif. Ça ne veut pas dire guerre. Hein. Ça veut dire, comme pour les physiciens, c'est instable.
Mmh. Il y a une plasticité du monde?
Tout est assez souple. Par exemple, est-ce que les États-Unis ont empêché la Chine d'être numéro un? On n'en sait rien, peut-être, peut-être pas. On se dit, mais en Chine, il y a 1,4 milliard de gens qui travaillent jour et nuit, donc ils vont peut-être y arriver. Mais c'est pas sûr. Vous voyez? Est-ce qu'un jour, on sortira le Proche-Orient du cycle atroce des malheurs combinés? Oui, non, on sait pas. Est-ce qu'il y aura, après la fin un jour de la guerre en Ukraine, la réinvention d'une sorte de coexistence, de voisinage avec la Russie de demain? On peut même pas être sûr. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que Trump sera élu? Peut-être. C'est pas sûr. Est-ce qu'il fera ce qu'il a dit? C'est pas sûr. Vous voyez, il y a rarement eu autant d'incertitudes dans le tableau général. Et je parle même pas du compte à rebours écologique, qui est beaucoup plus grave que la géopolitique. Donc, il y a énormément de choses qui bougent en même temps.
Alors, je souhaiterais revenir quand même, parce qu'on a laissé très rapidement de côté la guerre froide, parce que la guerre froide, c'est à la fois un combat idéologique, mais aussi une recherche d'équilibre. Qu'est-ce qui prime, l'idéologie ou
la recherche d'équilibre? Les États-Unis veulent rester les patrons. Et l'Union soviétique, on va vous dépasser. Les États-Unis disent non, jamais. Donc il y a des menaces d'anéantissement mutuel, bien plus terribles que ce que dit Poutine aujourd'hui, mais on l'a oublié. Et après, il y a la crise au bord du gouffre Cuba. Et après, il y a une époque de négociations, d'accords, de limitation des armements, etc., etc. Donc la guerre froide est gérée. Elle est restée froide. En tout cas, entre les puissances dominantes. Il y a eu plein de guerres autour, hein. Plein de guerres. Mais c'est pas pour le désir d'être équilibré. C'est pas du tout comme les gens du Congrès de Vienne pour gérer le 19e. C'est autre chose. Les États-Unis veulent rester les patrons, ce qu'ils sont devenus depuis 1945, et à l'appel des Européens, parce que, bon, voilà. Et l'URSS veut les dépasser. Donc ça ressemble un peu à ce qui se passe maintenant dans les discours, en tout cas entre les États-Unis et la Chine. Il y a un mélange de volonté de puissance et puis d'idéologie, mais qui est un habillage largement.
Oui, parce que en fait, ce qui m'intéressait dans ma question, le sens de ma question, c'était quel était l'élément qui était le plus important. Est-ce que c'était la réelle politique? Est-ce que c'était la dimension idéologique des deux blocs, ou bien un mix des deux?
Non, c'est la réalité. C'est même pas la réelle politique, c'est la réalité. Les États-Unis ont été appelés en Europe pour vaincre Hitler. Ils restent à la demande des Européens, puisqu'il y a la menace de Staline. Et ils deviennent numéro un. Ils ont des bases dans le monde entier, etc., etc. Ils veulent rester numéro un, à la fois par fierté, ambition, instinct de puissance, et aussi parce que ça leur paraît dangereux si c'est pas eux. Et l'URSS dit à partir de Khrouchtchev, on va vous dépasser. Donc l'Amérique dit non, jamais. L'élément puissance l'emporte sur tout le reste, même si c'est habillé d'idéologie, de valeurs, de culture, d'idéologie, etc.
Alors, dans une deuxième partie de l'émission, je souhaiterais essayer de définir ce qu'est précisément la grandeur diplomatique, puisque c'est le titre de votre ouvrage « Grand diplomate, les maîtres des relations internationales » de Mazarin à nos jours. Qu'est-ce qui distingue ces grands diplomates dans votre ouvrage? Quels sont les points communs aussi, au fond, de ces hommes d'exception?
Alors, l'intérêt pour nous aujourd'hui, hein, comme on voit bien qu'on n'est pas dans la communauté internationale, ni dans la guerre froide, c'est beaucoup plus compliqué et plus instable. C'est intéressant de voir comment les patrons de la politique étrangère, c'est pas les numéros 1, hein, c'est pas les rois ou les présidents ou les chanceliers, mais c'est les gens qui mettent en œuvre. De voir comment ils ont géré ça. C'est ça qui est très intéressant. Alors après, les grands diplomates, il n'y a pas que des diplomates dans le tableau, hein. Il n'y a pas que des ministres, il y a des gens qui ont été en position d'eux. C'est comme pour tous les négociateurs. Il faut savoir ce qu'on veut. Quel est l'objectif? Quels sont les compromis possibles, même si on ne le dit pas tout de suite, ce qui est compliqué à l'époque de la transparence qui empêche toute négociation sérieuse, en fait. Bon.
On va y revenir tout à l'heure, oui.
Est-ce qu'on sait ce que le gars qui est en face a en tête? Qu'est-ce qu'il veut, vraiment? Est-ce qu'à un moment donné, on pourra le bloquer sur tel point? Et est-ce qu'il acceptera un compromis? Il faut savoir tout ça. Donc c'est la grande. Mais tous les grands patrons du CAC 40 qui doivent négocier dans le monde avec d'énormes entités en face savent ça. C'est la maîtrise de la négociation. Après, il faut tenir compte plus ou moins d'éléments annexes. Ça dépend de la société dans laquelle vous êtes. 17e, 18e, 19e, 20e, ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est l'élément commun. Après, on peut juger en lisant et en comparant quels sont ceux qui s'en sont bien sortis. Quels sont ceux qui se sont fait avoir par les autres. Mais le cœur de la période dont nous parlons est assez stable, justement. C'est la période du 19e, en gros, avant la marche à la guerre de 14. Voilà, donc c'est les éléments de la... On a hésité d'ailleurs sur le titre, ça aurait pu être grand négociateur. Il n'y a pas que grand diplomate. Il n'y a pas que des diplomates, vous voyez, là-dedans. Mais normalement, les diplomates, ça dépend s'ils font de la représentation utile dans un pays bilatéral ou s'ils négocient. Comme le font nos représentants permanents à Bruxelles, à New York, etc.
Oui, donc, il y a des ministres, il y a des chanceliers, il y a effectivement aussi des diplomates.
Voilà.
Alors, sur Storia Voce, nous insistons beaucoup sur l'idée que l'histoire doit naturellement servir à stimuler l'intelligence, mais aussi au-delà, nous permettre de comprendre notre présent. Quelle était la place de l'histoire dans la vision de ces hommes?
Attendez, c'était permanent, parce qu'ils étaient très bien formés. Et Paul, la question se pose même pas. Dans les personnages dont nous parlons, alors quand on arrive au 21e, c'est moins évident, mais c'est des gens qui ont été formés dans les meilleures écoles ou formés par la vie, et l'histoire pour eux, c'est leur pensée quotidienne. Donc on n'a pas à s'interroger sur mais comment se fait-il que tel ou tel dirigeant réagit sous la pression de l'opinion et complètement oublié les leçons de l'histoire, etc. Bon. Donc c'est un autre monde. C'est un monde d'avant l'effondrement de la transmission, qui continue, mais sur des petits groupes, des petites minorités. N'importe quel dirigeant de l'époque est évidemment cultivé. Alors, au début, ils parlent tous latin. Après, il n'y a pas que le latin, ils parlent tous français.
Ils parlent tous français, la langue de la diplomatie est française.
Jusqu'à ce que Clémenceau, qui est lui-même bilingue, parce qu'il était aux États-Unis, il a d'ailleurs épousé une Américaine, qu'il a d'ailleurs maltraitée, enfin, c'est un autre sujet ça. En tout cas, il parle l'anglais. Donc il accepte que le traité de Versailles soit en deux langues. Bon, en dehors de ça, il y a quand même la maîtrise du français pendant très 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 longtemps. Ce n'est que récemment, tout ça s'est complètement effondré, mais sinon ça a duré très longtemps. Donc c'est un... Il y a plein d'éléments communs dans cette période-là, et qui donnent l'impression de se désagréger peu à peu après.
Alors, dans votre introduction, vous écrivez que ces hommes auraient pu se côtoyer en dépit des siècles. Ils auraient pu se parler, ils se seraient compris. Quelle est cette langue commune ? Est-ce que c'est celle du réalisme, du refus des idéologies ou plus simplement le langage de la puissance que nous évoquions tout à l'heure ?
Mais c'est pareil, c'est la réalité. Ils n'ont même pas besoin de théoriser de façon réaliste pour parler réalité. Donc un dirigeant de l'époque dont on parle, s'il est Jules César, la guerre des Gaules, est tout à fait capable de distinguer ce que Jules César dit qui est exact, et puis le théâtre, le cinéma qui est obligé de faire par rapport à Rome, parce qu'il veut maintenir des mandats au-delà de la période prévue. Donc il y a une sorte de guerre des Gaules qui est un peu provoquée par le jeu tactique de César à Rome par rapport au Sénat. Donc quelqu'un d'un peu cultivé à l'ancienne, il comprend ça. Il voit la différence tout de suite. Bon, de même que quand on lit Kissinger, qui lui-même se réfère aux autres, mais si on lit sur Méternich, enfin tous les personnages qui sont là, même les moins connus. Donc ça fonctionne très bien intellectuellement, jusqu'au triomphe au 20e, 21e, de l'image, de l'instantané, et de l'obligation de la réaction. Et on l'a vers des époques de diplomatie d'opinion, c'est-à-dire de sentiments, de sensations, de ressentis.
Dominique Moïsi parlait d'émotion, en fait. La géopolitique de l'émotion.
Oui, non, il le décrit très bien. Oui. Asner avait commencé à dire ça. Alors la question c'est, quel est le moment où l'opinion, donc l'émotion, les gens qui sont épouvantés, qui sont enthousiasmés, qui sont très heureux, dévorés de haine, de vengeance, tout ça, quand est-ce que ça submerge les décideurs ? Jusqu'à quand le décideur vrai, le numéro 1 ou le numéro 2, quel ministre dont nous parlons là, jusqu'à quand il arrive à se préserver de ça, en comprenant et en respectant éventuellement les sentiments profonds de l'opinion du pays dans lequel il est, tout en gardant une conscience aiguë de ce qu'il est, d'où vient son pays, quel est l'avenir, et comment il va garder la maîtrise de son destin. Tant que vous arrivez à dissocier les deux, ça va. Mais il faut quasiment gérer les deux phénomènes en même temps, de plus en plus. Donc Richelieu n'avait pas ce problème, hein. Mazarin non plus, même la plupart des personnages ne l'avaient pas.
Alors je reste quand même sur la grandeur de la diplomatie, on va voir l'avenir dans la troisième partie, mais est-ce que vous...
On n'a pas dit très grandeur de la diplomatie, grand diplomate.
Grand diplomate. Est-ce que vous les voyez avant tout comme des grands serviteurs de l'État et de l'intérêt national ?
Oui, tout cela, oui. Sauf qu'on a pris exprès, pour ouvrir un peu la réflexion, deux secrétaires généraux des Nations Unies.
Kofi Annan et...
Alors, c'est compliqué leur job, parce que les nations ne sont pas unies, pour commencer. C'est un peu le nom de la salle, en fait. Mais c'est bien qu'il y ait un endroit où toutes les nations du monde se rencontrent. Après, ils font pour le mieux. Mais ils n'ont pas de pouvoir vrai entre les mains. Sauf quand, de temps en temps, rarement, les cinq membres permanents sont d'accord sur quelque chose. Ça leur donne du pouvoir, ça. On les a mis parce qu'on ne peut pas passer complètement à côté de ce monde multilatéral, même s'il y a beaucoup d'illusions à son sujet. Mais sinon, oui, vous avez raison sur tous les autres personnages.
Alors, on connaît Talleyrand, on connaît Metternich, on connaît Bismarck, on connaît moins des personnages comme Kaunitz, comme Pitt, comme Choiseul, ou bien Vergennes que vous citiez tout à l'heure.
Alors, on connaît moins certains ministres étrangers. Mais on pourrait en rajouter d'ailleurs. Il est question que dans l'édition poche, on en rajoute d'ailleurs deux ou trois autres. Donc c'est dommage de ne pas connaître Pitt. Il y en a eu deux d'ailleurs.
William.
Voilà. Il y a le jeune et le vieux dans les Pitt. Kaunitz, c'est l'Autriche par rapport à ça. C'est mal connu aussi. Mais il y a des personnages français qui sont peu connus. Donc Choiseul et Vergennes sont moins connus, pas assez. Et les gens les confondent. Et puis il y a aussi Bartou dans les années 30. Donc on a fait un mélange, pas du tout pour... Il n'y a pas de volonté d'équilibrer entre les pays, mais on a pris des personnages significatifs qui ont incarné vraiment une politique, qui l'ont pensée en même temps. Ce n'est pas des simples exécutants, ce qu'on a mis dans la liste, vous voyez. Il y a des penseurs, concepteurs, opérationnels, tout ça. Donc on a intérêt à regarder, et comme les Français sont toujours un peu nombrilistes, en fait, et en ce qui les concerne, ils passent de l'exaltation grandiloquente à la dépression complète, quand ils voient qu'ils sont plus au centre de tout, enfin ça c'est les Français, bon, ils ont intérêt à regarder calmement et méthodiquement les autres grands ministres. Enfin, je pense que c'est utile.
Alors, justement, vous parlez de Bartou, je voudrais qu'on s'arrête sur l'entre-deux-guerres, parce qu'on connaît mal la politique d'un Stresemann, on connaît mal la politique d'un Briand, ou bien même de Bartou, dont on peut évoquer le sort, comme si la course, au fond, à l'abîme des années 30 avait comme effacé l'époque et le travail de ces hommes.
Ben, la réponse est dans votre question. Hein. Ce qui s'est passé après est tellement effrayant, monstrueux. La Deuxième Guerre mondiale, Hitler et tout ce qui va avec, que toutes les péripéties, les étapes diplomatiques plus ou moins bien négociées d'avant, ça a disparu. Donc on dit entre deux guerres. Donc une espèce de mélange de tout. Mais dans des livres comme Gérard Rao, que vous avez invité ici, son récit sur l'entre-deux-guerres est très intéressant parce qu'il montre que là, j'ai rappelé l'épisode à Versailles où Clémenceau se heurte à l'idéalisme abstrait de Wilson, mais les Anglais sont quand même, ont une politique à eux. Et les Anglais ne veulent absolument pas que la France se rétablisse trop au détriment d'une Allemagne affaiblie. Donc il y a une politique anglaise qui est quand même, on dirait, cynique. Mais moi j'ai horreur de l'usage moderne du mot cynique, comme si c'était l'abomination, alors que... Bon, en tout cas il y a une politique anglaise qui était un peu oubliée, et qui joue tout à fait contre les intérêts français, en réalité, dans l'entre-deux-guerres. Donc il n'y a pas d'unité, l'unité de Versailles vole en éclats. Alors tout ce qui est fait à l'époque, y compris les efforts très étonnants, très intéressants, brillants Stresemann, sur le franco-allemand, mais c'est le début ça.
Mais alors justement, est-ce que Briand, est-ce que Briand n'a pas été la dupe en quelque sorte de Stresemann ?
Non.
Non ?
Non, parce que c'est pas, le problème c'est pas Stresemann après, le problème c'est l'élection d'Hitler, avec l'enchaînement, alors on peut discuter sans fin, les effets du traité de Versailles, mais surtout la crise de 29. S'il n'y a pas la crise de 29 avec les valises de billets pour aller acheter un pain, vous n'avez pas Hitler en fait, par rapport à ça. Bon, donc il y a toute une sorte d'engrenage, mais on ne peut pas le reprocher à Briand. Alors peut-être qu'il s'est fait des illusions, parce que Stresemann lui-même le manipulait un peu, mais on ne peut pas condamner Briand, à mon avis, pour ce qu'il a tenté dans la décennie 20. Après, il y a aussi les débuts de politique en France en disant, comme il y a un problème allemand, ils sont trop gros maintenant, et avant même qu'ils soient hitlériens. Qu'ils aient élu Hitler, parce qu'ils n'ont pas forcément été tous hitlériens. Il y a toujours l'idée d'avoir un contrepoids avec la Russie. Bon, ça circule beaucoup dans la vision française. Mais de toute façon, les tentatives honorables de l'entre-deux-guerres, de ces bons ministres qu'on vient de citer, là, ont été balayées par la suite.
Barthou, il se distingue précisément par sa politique, par une volonté de politique pro-russe.
Oui, pro-russe, je ne sais pas si c'est pro-russe, mais en tout cas, il pense qu'on ne peut pas se passer de l'équilibre russe. Mais De Gaulle pensait ça, hein. De Gaulle, même pendant la guerre. Même quand il est, on est en 42-43, et la vision de l'avenir de l'Europe, dans lequel on ne pourra pas se passer d'une relation forte avec l'URSS. C'est même pas la Russie, il dit la Russie, De Gaulle. Mais c'est l'URSS de Staline, quand même, par rapport à cette époque. Donc il y a un courant français qui est très très rejeté aujourd'hui, parce qu'on est dans une époque qui est marquée par Poutine, par la guerre en Ukraine, etc. Donc qui réécrit tout, mais qui de dire on ne peut pas se passer d'un équilibre. Donc, il y a toujours un peu d'équilibre. Regardez, quand Pompidou fait entrer la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, c'est pour équilibrer la puissance allemande. C'est pas qu'elle soit dangereuse, mais c'est une question de poids, de quantité, de démographie, a fortiori plus tard, quand l'Allemagne sera réunifiée, de capacité économique. Donc vous me parliez tout à l'heure de la gestion des équilibres. C'est ça, la gestion des équilibres. Alors, est-ce qu'on a tort, à un moment donné, de cette dit, il faut utiliser la Russie comme élément d'équilibre, voire l'URSS. Si on condamne ça pour des raisons, disons, moralistes contemporaines, il faut contester Roosevelt et Churchill, qui se sont alliés à Staline pour battre Hitler. Vous voyez, ça va très loin.
Est-ce que on peut appliquer la fameuse phrase de l'Évangile « Nul n'est prophète en son pays ». Est-ce que ces hommes ont rencontré une opposition au sein de leur pays, mais même tout proche d'eux? Vous parliez du fait qu'ils soient numéro 2. Est-ce que le numéro 1 a pu, à un moment ou à un autre, se désolidariser de ces grands ministres ou bien de ces grands diplomates?
Au bout d'un certain temps, oui, parce que le numéro 1 est énervé par la place que l'autre a pris. Mais j'ai cité déjà Guillaume II, qui a écarté Bismarck. Jusque-là, c'était gérable. Bon, il y a plein d'autres exemples, bien sûr.
Il y a Zhou Enlai avec Mao Tse-tung.
Zhou Enlai, Mao l'a traité d'ailleurs cruellement. Il a quasiment empêché de soigner son cancer. Et il l'utilisait, mais c'était Mao le patron quand même. Il l'utilisait pour avoir une sorte de personnage présentable à l'extérieur, mandarin à l'ancienne. Alors, Zhou Enlai a réussi à protéger Deng Xiaoping, plus ou moins, Mais il n'a pas réussi à empêcher beaucoup Mao de mener sa politique insensée, bon, qu'adoraient beaucoup de gens à Paris, d'ailleurs, l'époque maoïste. Donc il faut se méfier en plus des jugements portés de loin. Donc oui, le fait que pendant très très longtemps, il y a eu une entente parfaite, la situation Louis XIII Richelieu, c'est incroyable, c'est unique. Louis XIII Mazarin, et puis Louis XIV après, et Colbert, etc. Il y a un moment assez unique là, dans la période. Mais vous avez plein d'exemples de... par exemple, Churchill était en bataille permanente avec le reste du gouvernement. Même aux États-Unis, il y a toujours des tensions, en fait.
C'est ça fait partie compliqué. De la vie politique.
Oui, ça fait, disons du pouvoir. Pas la vie politique en général, où on parle souvent dans le vide, mais le pouvoir, quand vous avez à prendre des décisions, pas à prendre position, ni à dire ce que vous pensez, mais il faut décider. Dans 4 minutes, il faut décider un truc. Là, vous avez forcément des... Et comme à un moment donné, il faut que... Et quelqu'un est le dernier mot, c'est le numéro un. Le dernier mot, dans tous les régimes, dans tous les systèmes. Donc ça peut créer des tensions. Mais en même temps, ça peut marcher souvent. On a plein de personnages qui ont été dans le pouvoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors c'est plus compliqué aujourd'hui. À mon avis, ça n'aura pas lieu maintenant.
Leur grandeur vient du fait qu'ils restent longtemps précisément au pouvoir et qu'ils ont le temps d'appliquer une politique longue que nécessite
les impératifs.
Alors,
il n'y a pas de la politique. Regarde, Kissinger, il était au pouvoir 8 ans. 8 ans. Et pendant 40 ou 50 ans, il a parcouru le monde en expliquant le monde. Donc il y a un mélange. En plus, on peut tout à fait discuter le bilan de la politique de Kissinger, indépendamment de la force de sa pensée. Donc il y a aussi le temps. Est-ce qu'ils ont écrit des mémoires ou pas? Est-ce que leur souvenir est transmis ou pas? Est-ce qu'ils ont créé une école ou pas? Vous voyez? Donc il y a toute la gamme. Mais on est quand même dans une époque où là, il y a des décideurs qui décident. Enfin, qui peuvent décider dans les sociétés en question.
C'est Jérémy Gallon hein, qui a traité de Kissinger. Et Jérémy Gallon a d'ailleurs remporté un prix de l'Académie pour son livre consacré à Kissinger. C'est chez Gallimard, si mes souvenirs sont bons. Alors j'ai reçu à ce micro l'historienne Isabelle Dasque, auteure d'un livre consacré aux grands ambassadeurs de la Troisième République. Et elle décrivait des hommes appartenant précisément au passé. Est-ce que l'on peut en dire autant des ministres des Affaires étrangères aujourd'hui? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères, tel que vous le présentez aussi à travers dans ces pages, eh bien fait partie du passé?
Non, je ne suis pas d'accord avec l'appréciation. C'est certainement très bien ce qu'elle a écrit, hein, je ne vais pas la critiquer, mais les ambassadeurs, ils ne sont pas nommés pour détruire le système. Donc ce n'est pas des révolutionnaires, ce n'est pas des anarchistes. En général, par définition. Or, elle parle du 19e, les ambassadeurs. Évidemment, il y a la caricature Norpois, très bien. Mais on est dans l'époque d'un certain équilibre bien géré, pendant tout le 19e, même s'il y a la guerre de Crimée. Donc le but, c'est de continuer. C'est pas qu'il soit du passé, c'est que le passé continue. Ils veulent que le passé continue. Et si le passé 19e avait continué avec Bismarck, on n'aurait pas eu 14-18. Donc les ambassadeurs ne sont pas critiquables en soi. En plus, ils ont des mandats, ils n'inventent pas la politique, les ambassadeurs. Et les gouvernants se disent, si on arrive à continuer, disons, la gestion de la compétition dans l'équilibre des forces en Europe et même sur les terrains coloniaux, c'est mieux comme ça, il ne faut pas que ça dégénère. C'est leur mission. Donc ce qui est présenté comme une critique, c'est peut-être un éloge par rapport à ça. Quand un ministre, il est obligé, un président et un ministre, il est obligé de dire « je représente un pays, voilà d'où vient ce pays, voilà l'avenir ». Et pour reprendre la formule que j'ai emplie tout à l'heure, il faut que ce pays, celui-là, le nôtre, mais ça peut être un autre, hein, garde la maîtrise de son destin. Donc par exemple sur ce sujet aujourd'hui, est-ce qu'il faut plus d'Europe ou moins d'Europe pour garder la maîtrise de son destin? Est-ce qu'il faut plus de multilatéralisme? Mais en fait, les puissances ne sont jamais contraintes par le multilatéralisme. Mais quand même, est-ce qu'il ne faut pas plus de ceci, cela? Est-ce qu'il faut, du côté chinois, aller vers une confrontation, enfin, par rapport à la Chine plutôt, comme le veulent les États-Unis? Ou est-ce qu'il faut trouver une sorte de point d'équilibre? Donc, vous êtes à la fois dans le passé, l'héritage, l'incarnation, la transmission, la perpétuation et l'invention. Donc, il faut équilibrer les deux. Ça dépend des moments. Il y a des moments de rupture qu'il faut savoir organiser. voyez, donc la réponse, c'est un mélange des deux.
Et pourtant, aujourd'hui, hein, vous l'avez esquissé depuis le début de cette émission, il y a bien des éléments qui bouleversent ce que l'on appellerait l'âge classique, la transparence, la durée, l'absence de durée et le rythme des prises de décision.
Et les réseaux sociaux. Non, mais c'est vrai depuis longtemps, ça. On voit simplement l'expression, notamment dans les démocraties, où s'impose l'opinion. Une opinion elle-même hystérisée par les réseaux. Donc, ça dépend encore une fois de la capacité de résistance et de décision et d'anticipation des décideurs à la fin des fins. Le président, les deux, trois ministres importants. Est-ce qu'ils arrivent à résister à ça? Donc, c'est vrai que tout a changé. D'autre part, vous avez l'époque de l'image, qui commence en gros avec Kennedy. Bon, image. Et les numéros 1 absorbent tout. Même s'il faut tout un système diplomatique par-dessous pour travailler, préparer, organiser les choses, négocier, etc. Bon. Donc vous avez de plus en plus d'images, de sommets, donc de concentration par rapport à ça, de transparence qui, à mon avis, tient pas compte d'un équilibre à trouver. La transparence, personne n'a envie d'être totalement transparent dans sa vie personnelle ou bancaire ou médicale. Personne n'a envie. Alors pourquoi il faudrait qu'il y ait une transparence absolue? En ce qui concerne les pouvoirs publics, il faudrait mieux distinguer dans l'avenir, y compris pour la diplomatie, ce qui doit être connu, parce que c'est l'exigence démocratique, normale, et ce qui empêche presque de travailler. Dans les négociations sensibles, imaginez qu'on sorte de l'horreur au Proche-Orient, et qu'il y a un début de processus de paix, à nouveau, avec un nouveau premier ministre israélien, un nouveau leader palestinien, etc. Imaginez ça. Si c'est transparent à la première minute, déterminé. Parce que ce sera des minorités courageuses de chaque côté. Si tout doit être transparent tout de suite. Par contre, donc, je pense qu'il faut, en matière de transparence, introduire la notion de la durée. Qu'est-ce qu'on dit à quel moment? Même s'il faut rendre compte honnêtement, loyalement, en matière démocratique.
Est-ce que ça vous rend donc pessimiste, cette...
me rend...
Parce que
je suis d'ailleurs le pessimiste, mais je pense que la conduite de la politique étrangère dans les démocraties devenues des systèmes d'opinion, c'est de plus en plus compliqué.
Vous citez Jules Cambon, qui était un grand ambassadeur. La politique, même la politique internationale, est désormais sortie du cabinet des hommes d'État. L'homme de la rue y joue son rôle, il y apportera ses passions, ses instincts, ses préjugés, son ignorance. Et cela ne rendra pas la tâche facile aux hommes qui essaieront de faire appel à sa raison pour éviter les catastrophes. Jules Cambon écrivait en 1926, on n'en est pas sorti ou on...
Non, c'est 10 fois pire. Non, mais Cambon, il écrit en pensant à ce qui précède. Peut-être qu'il pense à Richelieu ou à je sais pas qui. Mais on est en 2024. Donc on regarde Cambon, c'est quasiment un siècle. Tout s'est aggravé. Il y a beaucoup plus de sommets. Il y a le téléphone, il y a les réseaux, il y a etc., etc., etc. Bon, donc ce qu'il dit est beaucoup plus vrai. Je cite d'ailleurs dans la préface ou la conclusion du livre, je cite Claude Martin, qui est un grand ambassadeur de France, comme est Arrault, hein, qui est spécialiste de la Chine. Et puis il décrit un sommet à un moment donné où il dit « mais ça correspond plus à rien, parce que tout est public, tout est filmé, tout est... bon ». Donc les professionnels, il faut les écouter, il ne faut pas être choqué en disant « c'est atroce, ils veulent combattre la transparence, qui est une victoire de la démocratie, blablabla bon. ». C'est comme des chirurgiens qui diraient « moi, je ne peux pas travailler en salle d'opération si vous avez dans la salle la famille qui crie parce que ça sent le brûler, puis une caméra pour faire un procès, puis un chirurgien concurrent ». Donc il faut considérer que dans certains cas, dans certains métiers, et la négociation fait partie, et notamment au niveau des médias affaires étrangères, il faut considérer qu'il y a des conditions professionnelles à rétablir, parce que c'est quand même en péril, hein, pour que ça puisse fonctionner bien, dans l'intérêt de tout le monde du pays. Mais ça, bon, on va leur demander de rendre compte après. Il faut naturellement que le débat ait lieu. Mais donc j'incite sur le moment.
Alors, vous avez montré un monde contemporain fragmenté, hein, c'est un euphémisme. Est-ce que le multilatéralisme est un miroir aux alouettes, voire une forme d'utopie?
Si on en attend des miracles, oui. Si vous croyez que par le multilatéralisme, vous allez contraindre les Israéliens de faire ce qu'ils veulent pas, ou les Américains, ou les Russes, ou les Chinois, je sais pas qui, non. Oui, c'est une illusion. Par contre, essayer de travailler ensemble, c'est forcément mieux. Forcément mieux. Il faut toujours essayer d'avancer par le multilatéralisme, que ce soit au sein de l'Union européenne ou plus largement, pour trouver des solutions en commun. D'ailleurs, compte tenu de ce que je pense sur l'écologie, les COP vont devenir les rendez-vous les plus importants dans la vie internationale, plus que l'Assemblée générale des Nations unies, plus que le G20, parce que la panique va monter. Il faudra la canaliser dans des réponses. Bon, eh bien, il y a une discussion, c'est du multilatéralisme. Mais après, je répète, vous n'avez jamais vu une discussion multilatérale où qu'elle soit contraindre une puissance à faire ce qu'elle ne veut pas. Donc oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, mais ce n'est pas la panacée. Et à un moment donné, il faut savoir comment ça marche. Est-ce qu'on vote ou pas ? Majorité, unanimité, etc.
Qui sont les négociateurs de demain, Hubert Védrine ? Parce que en regard de cette question, bien évidemment, se pose la question du rôle du ministre des Affaires étrangères.
Bien sûr. Alors, on est dans un monde interdépendant. Même si la mondialisation se fragmente, elle ne va pas arrêter. On ne va pas désinventer le portable ni le porte-conteneur. Mais il y a des négociations sans arrêt, dans tous les sens, dans tous les domaines. Entre États, entre entreprises, entre organismes variés, entre banques, sans arrêt, sans arrêt. Et dans le domaine économique, c'est aussi lourd, aussi sensible de conséquences. Alors, il faut distinguer la diplomatie, ça ne s'applique pas qu'à la diplomatie. C'est l'art de la négociation. Donc, il y aura de plus en plus de négociateurs. Moi, je dis moins connus que ceux dont on parle là. Parce qu'ils n'auront pas le temps de se construire une légende, puis ils feront autre chose, et puis etc.
Vous parlez des Sherpas, notamment.
Oui, alors il y a plein de concurrents pour les ministres. Il y a les Sherpas qui préparent les sommets, il y a les ministres des Finances qui ont leur propre réseau, directeurs du Trésor qui ont leur propre réseau, représentants permanents qui dépendent théoriquement du ministre, mais qui ont beaucoup d'autonomie à Bruxelles, à New York, etc. Mais donc c'est un monde de négociations. Mais à mon avis, moins de grands négociateurs, immenses figures historiques comme ceux dont nous parlons depuis le début, là, parce que, précisément, ils n'auront pas le temps ni l'espace pour se construire comme ça. Regardez, Sultan Al-Jaber, qui a présidé la COP28 à Abu Dhabi, il a fait un travail magnifique. Il a réussi à faire avaler à l'Arabie qu'il peut y avoir des modes de développement hors énergie fossile. Alors, ça a l'air de rien vu de là, mais c'est la phrase que l'Arabie voulait empêcher. Il a réussi à les obliger. Il a bien joué, mais il ne va pas passer sa vie à présider des COP. Il va faire autre chose. Donc on n'a pas l'équivalent des personnages dont on a parlé, où ça fonctionne pendant 10, 20, 30, 40 ans. Mais c'est en même temps un monde de négociation. Donc moi, ce que je préconise, c'est qu'on arrive à marier l'incroyable technicité de gens qui parlent de médicaments ou d'intelligence artificielle ou bien de l'espace, etc., avec le savoir-faire de la négociation que les diplomates ils connaissent parfaitement. Et ça s'applique à tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, quel est l'objectif ? Sur quoi est-ce qu'on peut accepter un compromis ou jamais ? Est-ce que l'opinion va comprendre ou pas ? Quand est-ce qu'il faut lui dire ? Vous voyez ? Et que veut l'autre ? Ça s'applique à n'importe quelle négociation, même sur les roulements à billes. Hein. Donc il faut combiner les savoir-faire diplomatiques et l'extrême complexité des choses dans un monde interdépendant.
Alors nous arrivons, Hubert Védrine, au terme de cette émission. Peut-être deux petites questions encore. De tous ces personnages, est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce qu'il y a un personnage qui ressort et pour qui eh bien, vous avez une admiration spécifique ?
Non, parce que c'est jamais global. Mais il y a des morceaux, il y a des séquences. Bon, la vie de Talleyrand, c'est plus marrant que la vie de la plupart des autres pour des tas de raisons. Puis il a cheval sur deux époques, etc. Mais ils sont tous intéressants, y compris les moins connus, y compris les plus ternes, les moins brillants, les moins glamour, les moins tout ça. Mais il y a des moments spéciaux. Pour revenir à Talleyrand, le congrès de Vienne, c'est absolument prodigieux. Ce qui fait transformant le protectorat des 4 sur la France, c'est une co-gestion à 5. Mais dans tous les autres personnages qui sont là, même ceux qui ne sont pas connus, il y a des moments particuliers. Donc je ne prendrai pas un personnage en entier. Parce que sinon, on va me dire comment, mais vous approuvez une décision atroce qu'il avait prise sur je ne sais quel sujet, c'est le débat sur Kissinger. Quand on dit que c'est un penseur exceptionnel, il y a aussi Brzezinski, mais qui a fait moins mise en scène sa propre pensée. On va dire, oui, mais le bilan au Chili, au Cambodge, ça, c'est vrai. On peut débattre de ça. Donc, il n'y a pas d'exemple global. Mais je pense qu'il y a quelque chose à prendre, à retirer de tous les personnages qui sont là.
Et la dernière question, alors je sais, je connais votre admiration pour François Mitterrand, mais quand vous avez été ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002, est-ce qu'il y a un personnage qui, au fond, vous êtes retrouvé en face de lui et vous vous êtes dit, bah, celui-ci, il sort véritablement du lot ?
Bah moi, j'ai parcouru le monde pendant 20 ans avec Mitterrand, puis avec Chirac. Mais en lâchant Mitterrand, c'est plutôt épopée de la table ronde, on dirait, que de l'admiration, c'est trop... C'était presque insuffisant. Bon. Donc j'ai vu tout le monde. Honnêtement, il n'y a personne qui m'ait totalement impressionné. Alors je suis mal placé pour en parler, mais Mitterrand était lui-même tellement impressionnant, y compris sur les autres, que bon. J'ai vu Mandela qui m'a impressionné. Alors est-ce qu'on projette sur les gens ce qu'on sait ? J'étais preneur de notes très jeune entre Mitterrand et Deng Xiaoping. À l'époque, je ne me suis pas rendu compte. Quand je dis à des Chinois aujourd'hui, ils tombent par terre, vous voyez ? L'homme qui a vu Deng Xiaoping. Et donc j'ai vu énormément de gens très bien, mais j'ai pas vu de personnage qui soit comparable à ça. De Gaulle, si je l'avais rencontré, peut-être. Mitterrand est franchement au-dessus du lot. Enfin, c'est pas comme De Gaulle, mais au-dessus du lot. Et après, il faut distinguer des gens qui sont en situation historique et des gens qui sont eux-mêmes des personnages bluffants. Par exemple, Gorbatchev, qui était un homme incroyablement estimable, complètement utopique. On pouvait pas, à partir des ruines du communisme en URSS, on pouvait rien faire. En fait, Perestroïka, Glasnost, c'était perdu d'avance. Mais il était incroyablement attachant. Très attachant. Intéressant, c'était comment c'est Gorbatchev, là, qui, dans les décisions qu'il prend, ça va se terminer par une guerre ou pas une guerre. Vous voyez, c'est impressionnant par la position. Position. Donc, j'en ai vu 10, 20, 30. On se disait, c'est le président des États-Unis, quand même. Vous voyez? Mais il n'y a pas quelqu'un qui subjuguait, comme certains personnages, semble-t-il, selon les mémoires, ont subjugué les uns et les autres. Quant à Mitterrand, on pouvait tout à fait être pour ou contre sur un plan politique et français, mais j'ai quand même, pendant des années après, vu des personnages qui avaient les larmes aux yeux en parlant de lui. Helmut Kohl. Quand j'étais ministre, que j'allais à Bonn, j'allais voir le ministre, pas le chancelier, il me faisait venir, uniquement pour me parler de Mitterrand. Gorbatchev qui m'embrassait. C'est incroyable. Les messages avec George Bush, père. Donc Mitterrand a eu un... Mais je veux pas que les gens le comprennent mal. Il est évident que De Gaulle, c'est autre chose, notamment, pas De Gaulle président, mais De Gaulle 40. D'ailleurs, le livre de Jean-Luc Barré sur De Gaulle, dont seul le premier tome est sorti pour le moment, est exceptionnel aussi. Donc oui, non, j'ai pas vu tout à fait l'équivalent de Richelieu.
Eh bien, merci beaucoup Hubert Védrine d'être venu à notre micro. Grand diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Vous venez de publier aussi Camus, notre rempart aux éditions Plomb. Et je me permets, chers auditeurs, de vous renvoyer à la dernière livraison d'Histoire et Civilisation, Rome conquiert la Grèce. Le vainqueur subjugué, une revue que vous pouvez trouver chez votre kiosque préféré. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Nous avons évoqué Gérard Araud, une émission que vous retrouvez dans nos archives. Isabelle Dasque également. N'hésitez pas à écouter et à diffuser ces émissions. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Et un grand merci aussi à tous ceux qui étaient en direct avec nous ce soir. Merci et bonne soirée.